Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour et merci d'être de retour parmi nous pour un nouvel épisode du podcast À cœur d'elle. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde est la violence conjugale. Pour ce faire, j'ai une invitée bien spéciale que j'aimerais vous présenter. Bonjour Melpa.
Bonjour Justine.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci.
Oui, merci d'être parmi nous pour avoir cette discussion-là qui est importante. Aimerais-tu commencer par dire un petit mot pour te présenter?
Mais en premier, merci pour l'invitation de me trouver ici. Et je pense que le plus qu'on parle concernant la violence conjugale, le meilleur sera. Alors, moi, je suis impliquée dans le domaine de violence conjugale pour environ 30 ans. Je suis une des fondatrices de l'organisme Le Bouclier d'Athéna, Services familiaux. Et ce sera un plaisir pour moi de parler de qu'est-ce que nous avons fait au Bouclier concernant les femmes immigrantes, les femmes issues des communautés ethnoculturelles et tous les services et les services d'intervention et aussi de sensibilisation que nous avons fait pendant ces dernières 30 ans.
Mm-hmm. Et plus particulièrement, en fait, qu'est-ce que la mission du Bouclier d'Athéna?
Mais la mission du Bouclier d'Athéna, en premier, nous avons choisi le nom d'une déesse. Hein? C'est une grande déesse, la plus grande déesse dans la mythologie grecque. Initialement, nous avons commencé avec la communauté grecque pour donner de l'éducation, pour sensibiliser les gens autour de la problématique de violence conjugale. Et nous avons besoin d'une image qui est une image de pouvoir, de sagesse. Elle n'est pas voluptuaire, elle n'est pas une femme méchante. Alors, nous avons choisi cette image pour aider les femmes de viendrait divulguer qu'ils étaient victimes de violences conjugales et aussi de les donner une espèce d'abri, le bouclier, où elles peuvent trouver des services, une compréhension, etc., concernant leur situation. Nous avons commencé avec la communauté grecque ou la communauté hellénique, si on peut le dire comme ça, parce que nous avons vu une toute petite groupe des femmes dans cette communauté, dans ce temps-là, qu'il y a eu un problème de la violence conjugale qui était encore considéré comme étant tabou. Il y a un très grand silence autour de cette problématique. Mais en même temps, chacun de nous, dans cette petite groupe des femmes, nous avons connu au moins une, deux, trois personnes ou des connaissances, ou des membres de nos familles, ou des amis qui étaient victimes de ce type de violence, de la violence conjugale. Et nous avons fait quelque chose afin de provoquer la conversation, le début d'un débat dans cette communauté. Alors, au début, ce n'était pas le besoin de faire de donner des services. Le besoin, c'était de créer une sensibilisation autour de c'était quoi la violence conjugale? Sont lesquelles les lois qui appliquent? C'est quoi le processus policier? Et ce sont lesquelles les ressources qui existent? Et d'enlever cet mystère et cet silence autour de cette problématique afin de promouvoir, d'avoir une plus grande discussion ou discours autour de ce sujet dans la communauté. Alors, au début, nous avons visité les églises, les lieux religieux de notre communauté. Et il y a du monde qui avait pensé, mais mon Dieu, il n'y a jamais personne qui viendrait après la messe d'entendre concernant c'est quoi la violence conjugale. Et je vous dis qu'honnêtement, nous aussi, nous avons cette crainte au début. Mais après la messe, après que le prêtre a dit que, et voilà, les mesdames de Bouclier sont ici pour vous parler aujourd'hui concernant la violence conjugale, nous avons à un moment 350 personnes qui sont venues en bas pour nous entendre. Alors vraiment, c'était quelque chose très grassroots, okay, très sur le terrain, cet mouvement que nous avons fait dans la communauté hellénique dans ce temps-là. Et nous avons aussi utilisé, en parallèlement avec les sessions dans les ateliers dans les églises. Et quand on parle des ateliers, ce sont vraiment des vrais ateliers avec des questions qu'on pose en langue maternelle aux participantes, etc., avec des mythes et réalités autour de la violence conjugale. Ce sont vraiment des choses qui sont très, très bien présentées et traduites simultanément dans cette époque. On parle d'une 30 ans en avant. Alors, il y a beaucoup de femmes qui présentaient dans ce temps-là avec des barrières linguistiques très fortes, etc. Alors, mais parallèlement avec ces ateliers, nous avons pensé comment est-ce qu'on peut ouvrir encore cette question de la violence conjugale. Et nous avons pris la décision d'irer aux médias ethniques, aux canailles ethniques, pour diffuser des programmes de 15 minutes en « C'est quoi la violence conjugale ?». Je me souviens que pour le premier programme, nous avons utilisé une prêtre qui était là pour dire aux personnes que oui, la violence conjugale, c'est quelque chose de tabou, mais il faut qu'on s'en parle. Ça existe aussi dans les scènes de notre communauté. Alors, nous avons pris des policiers et policières pour parler concernant le processus policier, etc. Alors, tout un coup, entre la vente de l'huile d'olive et une publicité pour une salle de réception, nous avons inséré aussi une capsule de 15 minutes concernant la violence conjugale. Alors, nous avons une très grande audience qui nous avait entendu concernant c'est quoi la violence conjugale, les ressources, les lois, etc. Alors, ce modèle que nous avons fait dans ce temps-là, nous l'avons répliqué avec plusieurs autres communautés ethnoculturelles et nous avons produit des outils de sensibilisation en jusqu'à 17 langues, des vidéos qui incluent des vidéos, qui incluent des films, qui incluent des pamphlets, des dépliants, etc., afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible et de les divulguer des choses concernant la violence conjugale. Alors, c'est ce que nous n'avons pas attendu avec ce modèle de sensibilisation, mais c'était quelque chose qui était arrivé immédiatement après même la première session dans les premières sessions dans les églises. C'était la présentation des femmes victimes de violences conjugales, la plupart d'elles, pour la première fois de leur vie, qui avaient entendu une définition de la violence conjugale et qui avaient compris que pendant les dernières 10, 15, 20, 30 ans, elles étaient victimes de ce type de violence. Alors, ce n'était pas attendu, ça, OK, la réception des clientes. Mais nous avons trouvé un modèle qui avait travaillé en même temps avec la communauté et en même temps avec les victimes de violences conjugales. Et c'est ce modèle que nous avons répliqué avec plusieurs autres communautés ethnoculturelles.
Puis, en fait, c'est ces pratiques-là avec les communautés ethnoculturelles qui vous distinguent des autres maisons d'hébergement, des autres services en violence conjugale?
Oui, mais en effet, même si nous avons mis l'établissement éventuel d'une maison d'hébergement, nous étions fondés en 1991. La maison d'hébergement était établie en 2004. Mm-hmm. Mais en 1994, nous avons établi les bureaux de services à l'externe de Montréal. Et trois ans après, 1997, nous avons établi un bureau à Laval. Alors, pour nos buts, nous avons commencé avec les services à l'externe et les services à l'externe avaient donné tous les services auprès des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants exposés, sauf l'hébergement actuel. Quand nous avons besoin d'une maison d'hébergement, nous avons référé aux maisons existantes. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé et c'est intéressant de voir maintenant la vague. Maintenant, c'était d'établir le plus possible de services à l'externe aussi afin de rejoindre une autre clientèle que la clientèle qui était hébergée dans les maisons d'hébergement. Ce ne sont pas toutes les femmes victimes qui utilisent des maisons d'hébergement. Alors, pour moi, il faut avoir les deux alternatives.
Mm-hmm. Bien, c'est intéressant. Puis, ça m'amène à me demander, en fait, maintenant, plus de 30 ans après la création du bouclier d'Athéna, c'est quoi les défis, en fait, auxquels font face l'organisme?
Mais en principe, ce sont des défis de financement. Par exemple, notre département de sensibilisation communautaire qui est très grande, qui avait gagné des prix en 2012, c'était reconnu par le ministère des Services sociaux et Services de santé du Québec. Nous avons pris le prix d'excellence pour notre département de sensibilisation communautaire. Le fait, c'était que ce n'était jamais, jamais subventionné comme un département de sensibilisation communautaire avec une façon récurrente. C'était toujours nécessaire de reprendre des projets ponctuels afin d'être capable de subventionner cette importante ressource que nous avons développée. L'autre chose aussi, c'était qu'avec le département de sensibilisation communautaire, nous avons formé qu'est-ce qu'on appelle des intermédiaires culturels. Et ces intermédiaires culturels qui parlent en différentes langues travaillent aussi avec les communautés quand on fait des campagnes de sensibilisation, mais aussi avec les victimes de violences conjugales quand elles se présentent avec des barrières linguistiques très graves. Alors, avec les victimes de violences conjugales, elles travaillent avec les intervenantes, ça c'est sûr, parce que les intermédiaires culturels ne sont pas des intervenantes, elles sont des traductrices formées, des travailleuses communautaires, on peut les nommer autrement, mais elles ne sont pas des intervenantes. Alors, le type d'intervention qui était fait, c'était une intervention tripartite avec les femmes immigrantes ou avec les femmes qui présentent des barrières linguistiques très graves. Alors, et une intervention tripartite, ça implique les trois personnes dans une intervention qui normalement a été faite entre deux. Alors, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est le seul moyen d'avoir une intervention effective avec les victimes de violences conjugales. Alors, oui, notre défi, c'était comment c'était possible de garder ce département de sensibilisation et nos ressources des intermédiaires culturels existantes parce que, en vie, parce que ce sont des services qui, même s'ils sont très effectifs, ne sont jamais subventionnés d'une façon ponctuelle. Et il faut que je dise aussi qu'à Laval, c'était une plus grande situation pour nous, c'était toujours un plus grand défi parce que les bureaux de Laval ne sont pas vraiment subventionnés. Nous n'avons même pas une coordinatrice au bureau de Laval et ça pose un défi pour nous. Ça, ce qu'on fait dans le réseau de services de Bouclier, parce que vraiment, nous avons un réseau de services. Ça, c'est l'autre endroit où nous sommes un petit peu différentes. On donne la gamme de services aux femmes victimes de violences conjugales en plusieurs langues dans plusieurs points de service dans notre réseau. Ça veut dire service à l'externe Montréal, service à l'externe Laval, maison d'urgence Montréal et bientôt, ça va arriver aussi, une autre nouvelle ressource à Laval, la ressource deuxième étape, où on peut offrir des femmes et des enfants un séjour de plus longue durée après la violence conjugale. Alors, mais oui, c'est ça. Alors, pour le point de service de Laval, c'était toujours le plus oublié, par exemple, je peux vous dire. Mais on fait un recyclage, okay? On fait un recyclage continuel dans le réseau. Et comme ça, si nous avons besoin d'une intervention en langue ourdou, par exemple, à Laval, au bureau de Laval, on va envoyer l'intermédiaire culturel qui est embauché dans notre réseau. Alors, comme ça, on divise le travail entre Montréal, Laval et la maison d'hébergement.
Ben oui, exactement. Puis, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont isolées puis qui vivent de la violence conjugale, mais que en fait, elles n'ont pas le soutien nécessaire pour s'en sortir seules. Puis à ce moment-là, c'est là que les services du Bouclier d'Athéna, notamment grâce à toutes les langues là, dans lesquelles vous offrez les services, c'est possible pour elles de vous trouver d'une manière ou d'une autre, puis d'accéder, en fait, de peut-être s'en sortir.
Oui, ça, et aussi le fait que nous avons présentement trois sites, incluant un site légal, incluant un site formation en VBH, en violence basée à l'honneur, et aussi le site principal en plusieurs langues. où nous avons inséré des informations entre 8 ou 10 langues. Alors, par l'entremise de ces trois sites, elles peuvent avoir un accès. Nous avons aussi le site YouTube où nous avons mis des différents programmes, des différents films, vidéos. Plus récemment, c'était un programme que nous avons développé, Le savoir et le pouvoir, que nous avons fait pendant le temps de COVID, qui consiste des 50 capsules en 10 différentes langues. Concernant sont quoi les impacts de COVID auprès des femmes victimes de violences conjugales, le processus policière, les matérialités, les services de bouclier, le cycle de violence. Et ce sont des renseignements qui sont déjà traduits, qui sont brefs. Okay? Ça ne dure pas, je pense, chaque capsule plus que 4 minutes pour que la femme puisse avoir le temps de le voir et...
Oui, l'accès à l'information rapidement.
C'est ça, c'est ça. Alors, et jusqu'à maintenant, j'étais venue hier, avant l'entrevue, nous avons vu qu'il y a environ presque 4000 vues déjà okay, dans les capsules. Alors, et ce sont, comme j'ai dit, disponibles en 10 langues. Alors, il y en a des communautés qui avaient beaucoup utilisé cette site YouTube. Alors, nous avons... Le défi aussi, c'était le COVID, hein, parce que pour nous, c'était nécessaire d'adapter tous nos services aux services à l'externe. Nous n'étions jamais fermés, ni au bureau de Montréal, ni au bureau de Laval. Et j'avais insisté que nos interprètes et nos intervenantes se trouvent sur place. C'est vrai que nous avons divisé les intermédiaires et les intervenantes. Et pour un certain temps, nous avons mis une bloc. Nous n'avons pas accepté des personnes qui ont travaillé à la maison d'hébergement de visiter les services à l'externe, par exemple. Et nous aussi, nous ne sommes pas rendus jamais à la maison d'hébergement afin d'éviter la contamination, le plus possible la contamination. Alors, c'était comme ça que nous avons fonctionné, mais nous avons adapté tous les services d'une façon digitale. Alors, les services même d'intervention, les services d'intervention tripartite, au lieu d'être faits face en face, qui était déjà difficile, ils étaient faits en Zoom. Alors, mon Dieu, c'est difficile. Et pour quelques femmes qui ne parlent pas la langue, nous avons même fait des rendez-vous individuels, même si nous n'avons pas vu des femmes face à face. Pour les femmes qui n'avaient pas une connaissance de la technologie, ni un laptop, ni un ordinateur chez elles, elles ont tous un téléphone. Alors, nous avons enseigné toutes ces femmes comment elles peuvent utiliser l'application Zoom. Et comme ça, nous étions capables de continuer de faire des interventions avec cette clientèle qui était vraiment très, très vulnérable, isolée, sans appui et qui présente avec des barrières linguistiques très, très, très graves.
Puis, c'est vraiment intéressant parce que la COVID, on en a beaucoup entendu parler, évidemment. Puis, c'est évident là, que ça a chamboulé beaucoup de réalités, puis isolé encore plus les personnes qui souffraient déjà d'isolement. Mais je me demande, en plus d'avoir adapté tous les services au bouclier d'Athéna, est-ce que vous avez constaté une augmentation dans les demandes?
Si je vous dis la vérité, nous n'avons jamais entendu ça. L'année passée, nous avons eu 950 interventions en 8 langues qui étaient faites auprès de 75 femmes pendant l'année. Déjà, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup parce que ce sont des accompagnements, ce sont des interventions, ce sont reçu des appels, ce sont des démystifications de réseau, ce sont des informations légales, etc. Cette année, nous avons eu 1520 interventions avec en 9 langues. Mm-hmm. Nous avons ajouté l'espagnol l'année passée, fait avec 95 femmes. Alors, je ne peux pas vous dire, c'est ça la raison que nous sommes tous très, très brûlés avec la situation, parce que le COVID avait impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de nos intervenantes. de nos intermédiaires culturels et même pour la sensibilisation communautaire, nous n'avons pas arrêté. Au lieu de 38 sessions tenues l'année en avant, le COVID, nous avons fait 83 l'année passée. Et ce sont des sessions présentées de façon webinaire, tous par Zoom, qui sont faits concernant les répercussions légales, l'immigration, sur les sujets très, très durs, par exemple, qui étaient présentés par nos étudiantes en droit de l'UDM, qui avaient fait ces capsules et ces webinaires et, sur le droit de garde, sur le divorce, sur les aspects criminels. Alors, ils avaient présenté tout ça auprès des femmes en besoin, même aussi auprès de quelques femmes dans des maisons d'hébergement. Nous avons aussi les capsules, les webinaires réguliers sur la violence conjugale, le processus policière, le cycle de violence, etc. Sur les impacts aux enfants, ça c'était nouveau. Sur la violence liée à l'honneur, nous l'avons fait. Alors, en total, nous avons vu qu'avec le COVID et avec nos efforts d'être certains qu'on peut rejoindre le plus de personnes possible, nous avons triplé vraiment les sessions. Les sessions et les sessions de sensibilisation et avec les sessions de intervention se sont doublées, se sont presque doublées. Ouais. Alors voilà.
C'est fou la quantité de travail. Donc bravo pour ça, c'est pas rien. Si je change légèrement le sujet, en fait, pour avoir une perspective un peu plus peut-être générale sur l'enjeu de la violence conjugale, j'aimerais avoir, dans le fond, là, ton avis sur la perspective féministe. Est-ce que c'est important d'en avoir une quand on travaille avec des femmes victimes de violence conjugale?
Mais c'est bien sûr, parce que c'est le but des choses de faire un empowerment aux femmes, de prendre charge de leur vie, de les donner des options, des choix. Il ne faut pas oublier que l'empowerment et le sens du féminisme, c'est implanté, ça fait partie intégrale des interventions qu'on fait auprès des femmes victimes de violences conjugales qui viennent des communautés ethnoculturelles. Parce que ces femmes, il faut pas présumer beaucoup des choses. Vous et moi, parce qu'on parle ou anglais ou le français, nous avons des choix, nous avons des options. On peut entendre des choses. On peut avoir d'accès facile à ce type de renseignements. Mais pour la femme immigrante ou la femme qui est isolée ou pour la femme qui n'a aucun appui, par exemple, chez elle, qui présente avec des barrières linguistiques très graves, quel choix est-ce qu'elle a? Elle n'a aucun choix d'agir. Elle n'a aucune option. Elle est invisible. Elle est une membre invisible de notre société. Elle est une victime invisible dans le réseau de services qui existe pour les femmes victimes. Alors, il faut donner des choix. Il faut donner des options. Il faut le renseigner comme toutes les autres femmes sont renseignées. Et on voit beaucoup, beaucoup de discriminations qui étaient faites concernant ça. Il n'y a pas vraiment une égalité d'accès aux services, ni aux services et ni aux informations de base. Et c'est contre cette injustice que nous avons fait une guerre, je peux vous dire. Nous avons gagné des batailles, mais nous n'avons pas gagné la guerre encore. Mais il y a 30 ans qu'on parle de cette injustice et qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler. Et surtout, et vous saviez, parce que nous, on travaille beaucoup avec les femmes issues des communautés ethnoculturelles, les femmes immigrantes. Il y a toujours la question, mais oui, il faut que vous travailliez d'une façon qui est culturellement adaptée. Oui, oui, parce qu'il faut comprendre d'où vient la madame. Pourquoi elle déniait la violence? Il faut être capable d'entrer dans le pot de cette madame, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, comment on peut donner les informations. Mais les femmes victimes de violences conjugales provenant des communautés ethnoculturelles ont les mêmes besoins que toutes les femmes, même les Québécoises de souche. C'est une question toujours de survivre, de trouver un emploi, d'être capable de garder leur enfant, de trouver un logement, sont les mêmes questions de base. trouver une garderie. Ça, c'était le pire de pire. Hein? Le COVID avait affecté beaucoup plus les femmes. Mais si on prend les femmes victimes qui présentent avec des barrières, comme j'ai déjà dit, c'était toujours beaucoup plus difficile pour elles. Mais les questions restent les mêmes. Les femmes restent les mêmes. Alors, oui, on utilise l'approche féministe qui est adaptée par nos connaissances de sa culture, ses traditions et d'où elle vient, OK, et qui est fait avec une très grande compréhension et empathie de cette madame.
Mm-hmm. Être capable de se mettre à sa place, finalement, puis un peu dans ses souliers pour comprendre d'où elle vient. Comme...
Il faut absolument.
Mm-hmm. Oui, bien, c'est vraiment intéressant. Puis, en fait, en soi, je trouve que c'est très féministe comme approche. Donc, ça boucle un peu la boucle. En terminant, en fait, je me demandais s'il y avait un mythe que vous croyez qui serait pertinent de défaire au sujet de la violence conjugale, tout particulièrement au niveau de la violence conjugale dans les communautés interculturelles. On y a touché un peu au début, mais en fait, c'est que ce n'est pas seulement un problème de femmes, c'est un enjeu social. Donc, il faut... c'est peut-être moins les mythes comme les outils, tu sais, qui doivent être connus.
Mais la violence faite aux femmes, ce n'est pas une question qui touche les femmes seulement.
Ben, c'est ça.
C'est un problème qui est très sociétal. Si on voit des épisodes de la violence de groupe, par exemple, des violences par les hommes contre les femmes... On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la société de faire aussi une réaction contre ce type de violence. Parce qu'il y en a il y a une ampleur. Mm-hmm. Il y a une ampleur. En anglais, on dit ripple effect. Il y en a d'autres choses qui peuvent se présenter si une situation de violence conjugale n'est pas réglée. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les jeunes femmes qui disent « Mais non, maintenant, nous avons l'égalité, c'est pas évident, c'est pas nécessaire de faire quelque chose, c'est pas nécessaire d'être féministe. » Mais oui, beaucoup plus qu'avant, parce que l'égalité n'est pas venue encore, en plusieurs champs, mais plus particulièrement dans le champ de violence faite aux femmes. Si on voit les statistiques nationales et internationales, et si on voit les statistiques de nous, la plus grande partie des femmes qui viennent dans nos services sont des femmes entre 25 ans jusqu'à 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en premier, il y a une situation de violence conjugale qui existe encore. Et en deuxième, qu'il y en a des jeunes hommes aussi qui perpétuent ce type de violence. Alors, c'est un mythe qu'il y a une égalité. C'est un mythe.
Mm-hmm.
On cherche l'égalité encore. Il faut que nous sommes des féministes encore. Il faut que la violence faite aux femmes ne reste pas seulement comme une affaire des femmes, qu'on peut discuter entre nous chaque jour, par exemple, au travail ou dans les fêtes ou dans des petits cocktails. Non, non, non. Il faut être une affaire de la société, parce qu'il y a des impacts auprès de la société. Et, désolé, ça existe encore.
Bien, c'est un message très important. Donc, merci d'avoir pris le temps, en fait, de venir nous le porter aujourd'hui. Juste, si quelqu'un, quelqu'une a besoin de vous rejoindre au Bouclier d'Athéna, est-ce que c'est par téléphone, par courriel?
Par téléphone, ils peuvent nous rejoindre à 514-274-8117 ou 450-688-6584. Si la madame aime avoir un hébergement, elle faut absolument appeler le SOS Violence Conjugale. Si elle se présente avec une langue spécifique, il faut dire ça au l'intervenante de SOS et elle va faire le meilleur possible pour trouver une maison d'hébergement qui parle sa langue. Alors, c'est ça ce qu'on fait aux maisons d'Athéna. On donne toujours les langues qui sont parlées chez nous. Et si sa vie ou la vie de ses enfants sont en danger, il faut absolument, sans aucune hésitance, sans aucune réticence, appeler le 911. Et s'il vous plaît, parlez, informez les proches de vous que vous êtes victime.
Excellent. Donc, sur ce mot de la fin, merci beaucoup, Melpa, d'être venue nous parler. Puis, au plaisir.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'elle, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité.